VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à toutes et à tous, le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 3 juin 2022, en direct de Washington, Idrissa Seydoudia. Les titres pour commencer. Au Mali, deux employés de la Croix-Rouge ont été tués mercredi dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Kaï. Entretien aujourd'hui en Russie entre le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, et le président Vladimir Poutine. Le Tchad décrète l'urgence alimentaire en raison de la détérioration constante de la situation nutritionnelle à cause de la guerre en Ukraine. Kinshasa rassure quant à la sécurité du pape François à l'occasion de sa visite en juillet en RDC. Ici à Washington, le président Joe Biden délivre un appel passionné à limiter la vente de fusils d'assaut. En Ukraine, après 3 mois de combat, les Russes contrôlent 20% du pays, selon Kiev. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, selon un communiqué publié hier par la Croix-Rouge malienne, deux employés de cette ONG ont été tués mercredi dans l'attaque de leur véhicule dans la région de Kaï, dans l'ouest du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Les employés de l'ONG ont été tués dans cette attaque perpétrée, selon les premiers témoignages, par des hommes armés qui ont surgi à moto et qui ont ouvert le feu sans sommation, précise le communiqué. Les deux victimes sont de nationalité malienne et sénégalaise, selon Nou Maïga, secrétaire général de la Croix-Rouge malienne. L'organisation a précisé que l'équipe était en mission à bord d'un de ses véhicules arborant l'emblème de la Croix-Rouge malienne. La Croix-Rouge malienne condamne avec la plus grande fermeté cet incident qui, selon elle, vient porter atteinte à la mission humanitaire envers les populations vulnérables. La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se dit profondément inquiète de la détérioration de la situation sécuritaire au Sahel, ajoutant que cette violence et le ciblage de travailleurs humanitaires rend plus difficile l'assistance aux populations vulnérables.
Le Tchad déclare l'urgence alimentaire en raison de la détérioration constante de la situation nutritionnelle à cause de la guerre en Ukraine, selon un décret rendu public hier. Les détails avec Nanit Talani.
Le décret, signé par le chef de la junte au pouvoir, Mahamat Idriss Déby Itno, fait état d'un risque grandissant que les populations encourent si aucune assistance humanitaire comprenant une aide alimentaire, n'est apportée. Le gouvernement fait appel à tous les acteurs nationaux et les partenaires internationaux à venir en aide aux populations, poursuit le décret. Selon les Nations Unies, en 2021, 5,5 millions de Tchadiens, soit plus du tiers de la population de ce pays d'Afrique centrale, avaient besoin d'une aide humanitaire d'urgence. Cette situation s'est aggravée en raison de la guerre en Ukraine, où la Russie a imposé un blocus sur les céréales ukrainiennes. Le conflit entre ces deux pays, qui assure à eux seuls 30% des exportations mondiales de blé, a conduit à une flambée des cours des céréales et des huiles dont les prix ont dépassé ceux des printemps arabes de 2011 et des émeutes de la faim de 2008. L'ONU craint un ouragan de famine, essentiellement dans des pays africains qui importaient plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de la Russie. N'Djamena espère toujours des progrès dans la restructuration de sa dette avec l'objectif que le FMI puisse procéder au premier examen de son programme d'aide ce mois-ci avec, à la clé, un nouveau décaissement en faveur du gouvernement tchadien.
En République démocratique du Congo, le gouvernement a garanti hier que la sécurité du pape, attendue début juillet, sera assurée, y compris dans l'est du pays, où plusieurs groupes armés sont encore actifs, Nathalie Barge.
Le pape François est attendu à Kinshasa le 2 juillet et 2 jours plus tard à Goma, dans le Nord Kivu, où il dira une messe sur un site au pied du volcan Nyiragongo, dont la dernière éruption remonte à mai 2021. Le porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya, a déclaré devant la presse que le choix même du site représente toute la symbolique de la visite en raison des éruptions et incursions répétées. Monsieur Muyaya a précisé que les autorités congolaises travaillent avec la MONUSCO et les équipes du Vatican pour s'assurer que la sécurité sera assurée sur ce site comme à Kinshasa. Il a ajouté compter aussi sur l'effet pacificateur de la visite du pape. Lorsque vous recevez le Saint-Père, il vous amène la sécurité, a-t-il estimé. Ce briefing a marqué hier le lancement d'une campagne de communication sur la visite papale, la première en RDC depuis 37 ans, quand le pape Jean-Paul II était venu pour la deuxième fois dans l'ancien Zaïre en 1985.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici à Washington, le président Joe Biden a appelé hier soir le Congrès américain à trouver une voie pour restreindre les ventes de fusils d'assaut et à fustiger les élus républicains qui s'y opposent, Michel Joseph.
Monsieur Biden s'adressait à la nation après les fusillades sanglantes de l'école primaire d'Uvalde au Texas, d'un supermarché de Buffalo dans l'État de New York et celle mercredi d'un hôpital de Tulsa dans l'Oklahoma. Trop d'endroits du quotidien sont devenus des lieux de tuerie, des champs de bataille, déplore Monsieur Biden. Combien d'autres carnages sommes-nous prêts à accepter ? S'est écrié le président américain. Il a demandé l'interdiction au niveau national de la vente de fusils d'assaut semi-automatiques comme entre 1994 et 2004. Mais conscient de la très courte majorité de son parti au Congrès, il a nuancé en suggérant que l'on relève au moins l'âge légal minimum pour se procurer de telles armes. De 18 à 21 ans. M. Biden a également demandé l'interdiction des chargeurs à grande capacité, le renforcement des vérifications des antécédents judiciaires ou psychologiques des potentiels acheteurs et le vote d'un texte obligeant les particuliers à garder leurs armes sous clé.
L'Arabie Saoudite et d'autres pays membres de l'OPEP sont convenus jeudi d'augmenter la production de pétrole de l'organisation pour compenser la baisse des extractions russes, ce qui pourrait atténuer la flambée des prix de l'énergie. Et en Ukraine, l'armée russe a resserré hier son emprise dans l'est du pays, son objectif prioritaire dans cette guerre qui lui a permis de mettre la main sur 20% du pays selon Kiev. Le point avec Jean-Roger Bion.
3 mois après le début de l'invasion, les forces russes contrôlent actuellement environ 20% du territoire ukrainien, soit près de 125 000 km², a déclaré jeudi le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Avant l'invasion, les forces russes ou pro-russes y contrôlaient 43 000 km² depuis l'annexion de la Crimée et la prise d'un tiers du Donbass en 2014. Depuis le 24 février, elles ont notamment avancé dans l'est et au sud, le long des mers Noires et d'Azov, contrôlant désormais un corridor côtier stratégique reliant l'est russe à la Crimée. Après l'échec de leur offensive éclair pour faire tomber le gouvernement de Kiev, les forces russes se concentrent sur la conquête du Donbass dans l'est, où se joue désormais une guerre d'usure, notamment autour de la ville stratégique de Severodonetsk. Et la tactique du rouleau compresseur appliquée par Moscou pour grignoter lentement du terrain semble porter ses fruits.
La famille royale britannique se retrouve ce vendredi pour une messe célébrant les 70 ans du règne historique d'Élisabeth II, mais la souveraine de 96 ans n'y participera pas, apparemment fatiguée par le premier jour des festivités. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Le gouvernement mauricien a ouvert son programme de bourse annuelle pour les étudiants africains. L'âge limite est de 26 ans pour le niveau licence, 35 ans pour le master et 40 ans pour le doctorat. Les bourses d'études couvrent notamment la technologie, le développement durable, l'agriculture et l'ingénierie. En Algérie, Kamel Issad, PDG de la compagnie de transport maritime public, a été limogé hier par le président Abdelmadjid Tebboune après la grogne de la communauté algérienne en France en raison de dysfonctionnements dans la vente de billets. Algérie Ferry assure une liaison hebdomadaire entre Marseille et Alger. Selon l'Agence internationale de l'énergie, la flambée des prix a commencé par celle des métaux stratégiques pourrait gêner l'essor des énergies renouvelables. Le coût d'investissement pour construire de nouvelles capacités solaires et éoliennes a augmenté de 15 à 25% entre 2020 et 2022, soldant une décennie de baisse, soulignent les experts.
Merci Nathalie. À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les éliminatoires de la CAN 2023 se poursuivent.
Oui, 4 matchs aujourd'hui. Les Comores font face au Lesotho, le Togo reçoit l'Eswatini, le Burkina Faso croise les crampons contre le Cap-Vert. Le pays hôte, la Côte d'Ivoire, accueille la Zambie. Hier, le Mozambique et le Rwanda se sont neutralisés 1-1 et la Tunisie a écrasé la Guinée équatoriale 4-0. Pour rappel, 48 équipes réparties en 12 groupes prennent part à ces éliminatoires. Les deux premières de chaque groupe se qualifieront pour la phase finale prévue en Côte d'Ivoire du 23 juillet au 23 juillet 2023.
En Europe, le Portugal et l'Espagne se neutralisent en Ligue des Nations.
Le Portugal a arraché le nul 1-1 face à l'Espagne, finaliste de la dernière édition hier à Séville pour la première journée de cette Ligue des Nations 2022-2023. Au terme de cette première journée, c'est la République tchèque, vainqueur de la Suisse 2-1, qui prend les rênes du relevé groupe B. Dimanche, l'Espagne sera à Prague pour affronter les Tchèques dans le cadre de la deuxième journée, tandis que le Portugal reçoit la Suisse à Lisbonne.
18 mois de prison requis contre Rabah Majer.
Un procureur d'Alger a requis 18 mois de prison ferme contre l'ancien sélectionneur des Fenech et ancien attaquant vedette de l'équipe de foot d'Algérie. Selon la presse locale, l'ancienne star du football est poursuivi pour faux et usage de faux, fausses déclarations et escroquerie. Rabah Majer, 63 ans, possédait deux journaux Al-Balak et Al-Balak Iriadi et aurait continué à encaisser des chèques de publicité publique un an après leur fermeture. La partie plaignante, l'Agence nationale d'édition et de publicité, a demandé la restitution de la somme ainsi que le versement de dommages et intérêts. Rabah Majer est connu pour une talonnade réalisée lors de la Coupe des clubs champions avec le FC Porto face au Bayern Munich en 1987. Cette talonnade porte désormais le nom de Majer.
Basketball, LeBron James est le premier joueur NBA en activité à devenir milliardaire selon Forbes.
En 19 ans de carrière, la superstar des Los Angeles Lakers a gagné plus de 385 millions de dollars rien qu'en salaire en étant sous contrat avec les Cleveland Cavaliers, le Miami Heat et les Lakers. En dehors du terrain, les contrats de James lui ont permis de passer le milliard de dollars de revenus. À ce titre, il est le troisième membre de la NBA à entrer dans ce club derrière son glorieux aîné et le défunt Kobe Bryant, qui sont devenus milliardaires après avoir arrêté le basket. Plus de 500 millions de dollars de ses revenus proviennent de liquidités et d'investissements. Également très investi dans des productions hollywoodiennes, James est copropriétaire du Fenway Sport Group, qui possède le club de foot de Liverpool et la franchise de baseball des Boston Red Sox. Dans le classement dressé par Forbes des sportifs les mieux payés entre mai 2021 et mai 2022, James s'est classé deuxième en termes de revenus totaux avec 121,2 millions de dollars, derrière la star du Paris Saint-Germain, Lionel Messi, 130 millions de dollars.
Et signalons en finale NBA que Boston a remporté le premier match de la série, battant à San Francisco Golden State Warriors 120 à 108.
Participez à notre magazine interactif à votre avis du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets sans tabou. politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h TU sur VOA Afrique et voaafrique.com. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seloulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les travaux de recherche d'Armed Conflict Location et Event Data Project montrent que les attaques terroristes ont augmenté au Mali et au Burkina Faso malgré la prise du pouvoir par des militaires. Recueilli par notre correspondant sur place, Mohamed Danyoko, quelques réactions des populations au Mali.
Il y a eu 349 attaques perpétrées par les groupes djihadistes au Mali entre janvier et mai 2021 selon Armed Conflict et Event Data Project. Entre-temps, l'armée malienne a lancé une offensive dans le centre du pays. Yacouba Dramé, habitant de Mopti, note qu'il y a encore des poches de résistance.
On peut dire la situation sécuritaire dans l'ensemble, dans la région de Mopti. Il n'y a pas d'embellie, même si on voit qu'il y a une montée en puissance de l'armée, c'est-à-dire que le changement de stratégie, l'armée est de plus en plus offensive. On l'a vu à Moura, on l'a vu à Ombori. Mais dans la pratique, la population ne sent pas ça sur le terrain du changement, parce que les radicaux continuent d'arrêter les bus de transport, ils continuent de placer des agents explosifs non identifiés sur les principaux axes. Donc les populations civiles souffrent en matière de déplacement. Même si dans les attaques contre les villages, ça s'est diminué un peu. Mais aussi dans le cercle de Djéné et les deux cercles qu'on appelle les cercles inondés, Yuwaru et Tenengu, l'accès à ces zones-là, c'est extrêmement difficile.
Cette situation est pareille autour de la ville de Djenné, d'après Khadija Bokoum, une blogueuse. Originaire de Djenné, venue à Bamako pour récupérer son prix du meilleur blog sur la cohésion au Mali.
Il y a des semaines, voilà, ça n'allait pas. Mais aujourd'hui, on peut dire merci, ça va. C'est grâce aux forces armées qui ont venu intervenir. C'est les terroristes qui se sont introduits dans la ville. Bon, à quelques kilomètres de Djenné, quoi. Mais tu étais à Djenné, tu entends les coups.
Malgré ces difficultés et ces attaques répétées, on note une certaine amélioration dans la région de Badjangara. Malik Sissoko témoigne.
La situation sécuritaire, on peut dire, ça se stabilise. À un moment donné, les gens vaguaient rarement à leur occupation. Mais de nos jours, avec la montée en puissance de l'armée, que je peux confirmer parce que je suis de la région de Badjangara, on peut confirmer que les attaques s'amoindrissent de jour en jour.
Tous ces rapports interviennent au moment où les relations entre la France et le Mali sont au plus bas. Cette semaine, Antonio Guterres, patron des Nations Unies, s'est inquiété du vide laissé par le départ de la force française Barkhane qui pourrait être occupée par les djihadistes. Il y a à peine 24 heures, l'AMUNISMA, la mission onusienne au Mali, a aussi publié son rapport notant qu'entre le 1er janvier et le 31 mars, en 3 mois cette année, il y a eu 449 incidents sécuritaires, dont 233 au centre, 86 à Gao dans le nord et 37 à Menaka dans l'est du pays. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
Le président en exercice de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, accompagné du président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, sont reçus aujourd'hui à Sotchi en Russie par le président russe Vladimir Poutine. Le continent est durement touché par les effets de guerre, notamment pour son approvisionnement en blé et fertilisant. Monsieur Sall va appeler à un retour de la paix et demander la délivrance de millions de tonnes de céréales toujours bloquées au port d'Odessa. Abdurrahman Dia a joint à Douala le journaliste et analyste politique Morgan Palmer.
Bien sûr qu'elle a la raison de se faire entendre. Après, se faire entendre comment? Si on est dans une approche avec beaucoup d'humilité, parce que de toutes les façons, aujourd'hui, nous bâtissons de ce conflit avec la hausse notamment de certaines denrées de bien nécessité. J'ai une petite pensée pour le blé, donc est fortement dépendant tout le nord de l'Afrique, le Maghreb, et de manière plus large, le reste de l'Afrique. Évidemment, un conflit comme celui-là ne peut être appelé de tous nos voeux, ou plutôt la résolution de ce conflit doit être appelée des voeux de tous les Africains. Donc que l'Afrique veuille se faire entendre, je crois que c'est la voie dans son intérêt.
C'est assez rare que l'Afrique cherche à jouer les médiateurs dans des conflits qui se passent en Europe, par exemple. Alors que répondre à ceux qui disent que cette visite du président en exercice de l'Union africaine est symbolique et qu'elle ne servira à rien?
Oui, quand on sait que l'Union africaine, c'est 60% de son budget est une participation de l'Union européenne, et quand on sait qu'aujourd'hui, toute l'Union européenne, via l'OTAN, est alignée dans une position plutôt hostile à Moscou, effectivement, on peut considérer que ce n'est pas le président d'une organisation africaine souveraine qui va parler à Moscou. C'est le président d'une organisation, l'Union africaine j'entends, dépendante de l'Union européenne, donc qui est l'une des forces belligérantes engagées au conflit, si on peut dire les choses comme ça. Donc je ne sais pas trop en ce moment ce que ça peut donner. Mais si le président de l'Union africaine qui se déplace, de la Commission africaine qui se déplace à et de l'Union africaine, donc Macky Sall et Moustapha Faki, si ces deux qui se déplacent là-bas se déplacent dans l'idée de faire entendre le point de vue de l'Afrique, qui a brillé par une certaine neutralité qu'on a salué dans les opinions ici en Afrique, eh bien, il y a peut-être de fortes chances qu'il y ait un type de dialogue qui s'établisse avec Moscou, qui par certaines postures rencontre un franc soutien dans les opinions publiques africaines.
Justement, j'allais vous demander, cette posture de neutralité ou de non-alignement de plusieurs pays africains traditionnellement proches des Occidentaux, cette posture a été constatée depuis le début de ce conflit. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Est-ce que c'est une chance aussi pour l'Union africaine de peut-être trouver au moins un compromis?
On revient dans un scénario qu'on connaissait déjà, la fameuse guerre froide avec les pays non alignés, on trouvait beaucoup de pays africains. Mais derrière cette neutralité, c'est un soutien voilé à la Russie, bon, que les uns et les autres ont du mal à assumer parce qu'ils savent que ça va engendrer dans l'eau de rétorsions.
C'était Morgan Palmer, journaliste et analyste politique à Douala, au Cameroun. En Tunisie, le président Kais Saied a révoqué 57 juges pour assainir, selon lui, le système judiciaire, éradiquer la corruption et les violations de la loi dans son pays. Pour l'opposition, c'est un règlement de compte contre ces magistrats opposés à son coup de force. Nanit Talani a joint à Tunis la journaliste Nadia Dejoui.
Je pense que la révocation n'est qu'une étape du projet du président de la République pour faire passer son projet, à savoir la démocratie représentative. Aujourd'hui, ce sera les magistrats qui, dans peu de temps, peut-être que ce sera d'autres organismes.
Comment l'opposition réagit-elle face à ces dizaines de magistrats révoqués?
Aujourd'hui, l'opposition a été à l'unanime. D'ailleurs, il y a une conférence de presse qui s'est tenue aujourd'hui où les cinq partis, à savoir El Khotob, le Front Populaire, le Courant Démocrate, El Jumhuri, le Courant Démocrate et Tekatol, voilà. Ils ont évoqué aussi un règlement de compte. De plus, ils ont annoncé un appel au boycott du référendum qui aura lieu le 25 juillet.
Que va-t-il arriver à tous ces magistrats révoqués?
On ignore pour l'instant quelles seront donc les conséquences. Ce qu'on sait du moins, un juge ne peut pas exercer sa fonction selon le décret présidentiel, qui n'a plus la possibilité de s'opposer même à cette révocation justement. Et il faudrait passer des années pour revenir juge de nouveau. D'ailleurs, aujourd'hui, je pense aussi qu'on a perdu assez de temps où on aurait dû penser sur des questions beaucoup plus essentielles, notamment le quotidien des Tunisiens, améliorer le pouvoir d'achat qui a baissé de plus de 40%, même plus, comment faire face à une inflation qui dépasse les 7%, et sans oublier que nous avons une hausse de chômage qui avoisine les 16,1% selon les derniers chiffres de l'Institut national des statistiques tunisien.
Vous aviez mentionné l'opposition qui appelle au boycott du référendum que le président Kais Saied convoque, et il y a cette révocation des magistrats. La crise politique qui existe déjà dans le pays ne risque-t-elle pas de s'intensifier?
Oui, ce sera une impasse où on ignore comment demain sera fait, donc justement, oui. Pour l'instant, on ignore comment ça va être, donc je peux pas vous répondre par rapport à cette question. On ignore comment demain sera fait. Et puis, pour revenir à la révocation des 57 magistrats, c'est tout nouveau, donc on ignore comment ça va être, puisque là, pour l'instant, on n'en sait rien, on n'a pas d'informations claires là-dessus.
Nadia Dejoui, journaliste jointe hier à Tunis. En République démocratique du Congo, la 17e édition de Mining Week, la grande messe annuelle du secteur des mines, organisée cette semaine à Lubumbashi dans le sud-est du pays, s'achève aujourd'hui. Plus de 4000 participants venus de 45 pays prennent part depuis mercredi aux travaux de cette grande messe annuelle du secteur des mines. Quel est l'impact des richesses minières de la RDC au niveau des communautés locales? Pour en parler, Eric Manirakidza a joint à Lubumbashi Louis Vatom, président de la Chambre des mines de RDC.
Au niveau des résultats, il y a déjà des signes palpables. Je peux vous assurer aujourd'hui que tant dans le secteur éducatif que dans le secteur des infrastructures et des dessertes en eau potable et autres, on voit des grandes avancées. Je vais vous donner un exemple simple. Je suis en train de développer pour le compte d'Ivano Mines la mine de zinc qui a la teneur la plus riche au monde. Cette mine n'est pas encore opérationnelle. Elle le sera dans 2 ans parce que nous sommes dans les efforts de développement de cette mine. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui, nous distribuons de l'eau potable gratuitement à une cité de 300 000 habitants et les cités périphériques qui ne sont pas atteintes, nous avons un programme ambitieux de 50 puits d'eau potable dont une quinzaine sont déjà faits, qui sont opérés par nos solaires. Et du point de vue éducatif, il y a plus d'une centaine de bourses d'études aux étudiants du cycle universitaire et presque autant au cycle secondaire. Et d'ailleurs, 2 de nos finalistes de Kipushi, dans la ville où on crée ce projet, ont fait les plus hauts résultats à leurs examens d'État, ce qu'on appelle baccalauréat ailleurs. Et grâce à la bourse de la première dame, la bourse Excellencia, se retrouve à Paris aujourd'hui en train de faire les études. Des exemples comme ça, je peux en citer nombreux. La mine de Kamoa, par exemple, elle est en train de construire en ce moment aussi une université de standard qui n'a rien à envier à ce que vous voyez à Boston, au Canada ou n'importe où ailleurs au monde. First class tertiary education. Et donc, des exemples comme ça, il y en a tout plein. Il est bien dommage, par contre, et ça je dois le dire, que les miniers parfois ne communiquent pas assez. Et alors, l'espace médiatique est plutôt rempli par tout ce qui est dénoncé de mauvais par la société civile et les lanceurs d'alerte. Et c'est légitime qu'ils le fassent, mais je crois qu'il y a énormément de bonnes choses qui se font dans le secteur minier. Et j'aime toujours inviter les critiques et les sceptiques de venir voir de visu, de voir de même pour croire à ce qui se fait ici.
Et quelles sont les perspectives pour l'année en cours?
L'année où nous sommes très optimistes. C'est vrai, il y a les chocs de la géopolitique internationale, il y a eu la Covid, puis maintenant il y a la guerre en Ukraine qui a des répercussions sur nous tous, concernant par exemple le coût d'un intrant important qui est le carburant dans nos opérations minières. Mais en dépit de tous ces chocs, nous sommes optimistes parce que la RDC, et moi qui vous parle, je suis un fondamentaliste des ressources naturelles de la RDC, parce que la dotation minérale que nous avons, elle n'est égalée par aucun autre pays au monde. Et deuxièmement, le capital humain est exceptionnel en RDC. Troisièmement, l'énergie hydroélectrique est disponible. Nous avons un déficit pour le moment, mais qui peut très vite être comblé, parce qu'en réalité, la RDC peut produire suffisamment d'électricité pour toute l'Afrique et même le Proche-Orient. Et bien sûr, il y a les terres arables, près de 80 millions de terres arables. Lorsque vous mettez tout ça dans un basket, vous réalisez que c'est un pays qui a énormément de potentiel, énormément de résilience par rapport à ces chocs géopolitiques. Et donc, nous voyons encore une année de production très forte pour le pays, dans les métaux de base tels que le cuivre, le cobalt, l'or également. Et donc, nous restons très optimistes. C'est ça les perspectives pour cette année.
Louis Wattum, président de la Chambre des mines de RDC. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Sedoudia, à la mise en onde de Michel Joseph et à la console Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.